Discours de la servitude volontaire. Étienne de la Boétie. Troisième partie. Mais à la vérité, il est tout à fait vain de débattre pour savoir si la liberté est naturelle, puisqu'on ne peut tenir personne en servitude sans lui faire de tort, et qu'il n'y a rien au monde de plus contraire à la nature, qui est en tout point raisonnable, que le tort. Il en résulte donc que la liberté est naturelle. Et si je suis le même raisonnement, j'en déduis que nous ne sommes pas nés seulement en possession de notre liberté, mais aussi avec une propension à la défendre. Or, si d'aventure nous émettons quelques doutes sur ce propos, et si nous sommes si abâtardis que nous ne puissions reconnaître nos biens, ni de même nos penchants naturels, il faudra que je vous fasse l'honneur qui vous appartient, et que je fasse monter, si je puis dire, les bêtes brutes en chair, pour vous enseigner votre nature et condition. Les bêtes, qui si Dieu me vienne en aide, si les hommes font trop les sourds, leur cri vive la liberté. Il y en a plusieurs parmi elles qui meurent sitôt qu'elles sont prises, comme le poisson quitte la vie aussitôt que l'eau. Pareillement, ces bêtes-là quittent la lumière et ne veulent point survivre à leur naturelle liberté. Si les animaux posaient entre eux quelque prééminence, ils feraient de ces bêtes-là leur plus noble caste. Les autres, des plus grandes jusqu'aux plus petites, font, lorsqu'on les prend, si grande résistance d'ongles, de cornes, de becs et de pieds, qu'elles déclarent assez combien elles estiment cher ce qu'elles perdent. Puis, étant prises, elles nous donnent tant de signes apparents de la conscience qu'elles ont de leur malheur, qu'il est aisé de voir qu'à partir de ce moment, il s'agit pour elles de dépérir plutôt que de vivre, et qu'elles continuent leur vie plus pour regretter le reste perdu que pour se plaire en servitude. N'est-ce pas ce que veut dire l'éléphant, qui s'étant défendu jusqu'à n'en pouvoir plus, ne voyant plus d'issue, étant sur le point d'être pris, enfonce ses mâchoires et casse ses défenses contre les arbres. Tant le grand désir qu'il a de demeurer libre tel qu'il est, lui donne de l'esprit, et l'incite à marchander avec les chasseurs, pour savoir si pour le prix de ses défenses, il en serait quitte, et s'ils accepteraient qu'il donne son ivoire, et paye cette rançon pour sa liberté. Nous nourrissons le cheval dès sa naissance pour l'apprivoiser à servir, et pourtant nous qui pensons savoir le flatter quand vient le moment du dressage, nous le voyons mordre le frein, se ruer contre l'éperon, comme pour montrer à la nature, semble-t-il, et témoigner au moins par là que s'il sert, ce n'est pas de son gré, mais par notre contrainte. Mais que faut-il donc dire? Même les bœufs sous le poids du joug geignent, et les oiseaux dans la cage se plaignent. Comme je l'ai dit autrefois, au temps où je me consacrais à nos rimes françaises. Car je ne craindrais point, écrivant pour toi, ô Longa, d'y mêler mes vers, lesquels je ne te lis jamais sans que par l'apparent contentement qu'ils te procurent, je n'en tire une grande fierté. Ainsi donc, puisque tous les êtres qui ont la faculté de sentir sentent systématiquement le mal de la suggestion et courent après la liberté, puisque les bêtes ne peuvent s'accoutumer à servir qu'en protestant d'un désir contraire. Quelle malchance a donc eu lieu qui a pu dénaturer l'homme, né véritablement pour vivre libre, au point de lui faire perdre et le souvenir de son être premier et le désir de le retrouver. Il y a trois sortes de tyrans. Les uns ont le royaume par élection du peuple, les autres par la force des armes, les autres par succession de leur lignage. Ceux qui ont acquis les territoires par le droit de la guerre, ils s'y comportent de telle manière qu'on se rend bien compte qu'ils sont, comme on dit, en terre de conquête. Ceux qui naissent rois ne sont communément guère meilleurs, mais étant nés et nourris dans le sein de la tyrannie, tirent avec le lait la nature du tyran et traitent les peuples qui sont sous eux comme leurs esclaves héréditaires, et selon le tempérament auquel ils sont le plus enclins, avares ou prodigues, ils disposent du royaume comme de leur héritage. Celui à qui le peuple a donné l'État devrait être, ce me semble, plus supportable, et le serait, je crois, si ce n'est que dès lors qu'il se voit élevé au-dessus des autres, flatté par je ne sais quoi, qu'on appelle la grandeur, ils délibèrent de ne pas en bouger. Généralement, celui-là envisage de transmettre à ses enfants le pouvoir que le peuple lui a donné. Et dès lors qu'ils ont adopté cette idée, c'est chose étrange de voir combien ils surpassent en toutes sortes de vices, et particulièrement en cruauté, les autres tyrans, ne voyant d'autre moyen pour assurer la nouvelle tyrannie que de resserrer si fort la servitude et d'éloigner tant leurs sujets de la liberté que même si la mémoire en est fraîche, ils peuvent la leur faire perdre. Ainsi, pour dire la vérité, je vois bien qu'il y a entre eux quelques différences, mais de raison de choisir l'un ou l'autre, je n'en vois point. Et même si les moyens d'accéder au trône sont divers, la façon de régner est toujours quasi semblable. Les élus traitent leurs sujets comme s'ils avaient des taureaux à dompter. Les conquérants en agissent comme avec une proie. Les successeurs les considèrent comme leurs esclaves naturels. Mais à ce propos, si d'aventure il naissait aujourd'hui quelque peuple tout neuf, ni accoutumé à la sujétion, ni ayant pris goût à la liberté, ne connaissant ni l'une ni l'autre, ni même leur nom, si on leur proposait ou d'être esclaves ou de vivre libres, selon des lois sur lesquelles ils s'accorderaient, il ne faut pas douter qu'ils ne préférassent obéir à la raison seule plutôt que servir un homme. Mais certes, tous les hommes, tant qu'ils ont quelque chose d'humain, avant qu'ils ne se laissent assujettir, il faut qu'ils aient été contraints ou trompés, contraints par les armes étrangères comme Sparte ou Athènes, par les forces d'Alexandre ou par les factions comme le gouvernement d'Athènes tombé auparavant entre les mains de Pisistrate. Ils perdent souvent la liberté par tromperie, et en cela, ils ne sont pas toujours séduits par autrui, mais bien souvent, ils sont trompés par eux-mêmes. Ainsi, le peuple de Syracuse, la principale ville de Sicile, on me dit qu'elle s'appelle aujourd'hui Saragousse, étant oppressée par les guerres et inconsidérément, ne s'attachant qu'aux dangers présents, éleva Denis au rang de dernier tyran et lui donna la charge de la conduite de l'armée sans se préoccuper du fait de l'avoir fait si grand, de sorte que quand le bon apôtre revint victorieux, non pas ce qu'il semblait de ses ennemis mais de ses concitoyens, il se fit de capitaine roi et de roi tyran. Il n'est pas croyable de voir à quel point le peuple, dès lors qu'il est assujetti, tombe si soudain en un tel et si profond oubli de la liberté qu'il n'est pas possible qu'il se réveille pour la ravoir. Servant si librement et si volontiers, qu'on dirait à le voir qu'il a non pas perdu sa liberté, mais gagné sa servitude. Il est vrai qu'au commencement on sert contraint et vaincu par la force, mais ceux qui viennent après servent sans regret et font volontiers ce que leur devancier avait fait par contrainte. Cela parce que les hommes naissant sous le joug, puis nourris et élevés dans le servage, sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés, et ne pensant point avoir d'autres biens ni d'autres droits que ce qu'ils ont trouvé, ils considèrent comme naturel l'état de leur naissance. Et toutefois, il n'est point d'héritier si prodigue et nonchalant qui ne jette quelquefois les yeux sur les registres de son père, pour voir s'il jouit de tous les droits de sa succession, ou si l'on a porté quelque atteinte à son prédécesseur ou à lui-même. Mais certes, la coutume, qui a en toute chose grand pouvoir sur nous, n'a en aucun endroit une force plus grande qu'en ceci, de nous enseigner à servir, et ceci, comme l'on dit de Mithridate, qu'il s'accoutuma à boire le poison, pour nous apprendre à avaler et à trouver moins amer le venin de la servitude. L'on ne peut pas nier que la nature n'ait en nous une part importante pour nous diriger là où elle veut, et nous faire estimer bien ou mal nés. Mais il faut cependant confesser qu'elle a sur nous moins de pouvoir que la coutume, parce que le naturel, si bon soit-il, se perd s'il n'est entretenu, et l'éducation nous façonne toujours à sa manière, quoi qu'il en soit, malgré la nature. Les semences de bien que la nature met en nous sont si menues et glissantes qu'elles ne peuvent endurer le moindre heurt produit par une éducation contraire. Elles s'entretiennent moins aisément qu'elles ne s'abattardissent, se fondent et s'anéantissent, ni plus ni moins que les arbres fruitiers, qui ont bien tous un naturel à part, qu'ils gardent intacts si on les laisse se développer, mais qu'ils délaissent aussitôt pour porter d'autres fruits étrangers et non les leurs, pour peu qu'on les greffe. Les herbes ont chacune leur propriété, leur naturel et leur singularité, mais toutefois le gel, le temps, le terroir ou la main du jardinier y ajoutent ou diminuent beaucoup de leurs vertus. La plante qu'on a vue en un endroit, on est ailleurs incapable de la reconnaître. Celui qui verrait les Vénitiens, cette poignée de gens vivant si librement que le plus méchant d'entre eux ne voudrait pas être le roi de tous, né et élevé de telle sorte qu'ils ne se reconnaissent point d'autre ambition que d'être celui qui le mieux conseillera et saura le plus soigneusement veiller à entretenir la liberté, gens éduqués et façonnés dès le berceau, de manière qu'ils ne prendraient point toutes les autres félicités de la terre pour perdre la moindre parcelle de leur liberté. Celui qui aura vu, dis-je, ces personnages-là, et les quittant s'en ira sur les terres de celui que nous appelons grand seigneur, voyant là des gens qui n'estiment n'être nés que pour le servir, et qui, pour maintenir sa puissance, abandonnent leur vie. Celui qui aurait vu tout cela, penserait-il que ceux-là et les autres ont un même naturel, ou plutôt n'estimerait-il pas que, sortant d'une cité d'hommes, il est entré dans un parc de bêtes? Lycurgue, le législateur de Sparte, avait nourri, dit-on, deux chiens, tous deux frères, tous deux allaités avec le même lait, l'un engraissé en cuisine, l'autre accoutumé dans les champs, au son de la trompe et du cor de chasse. Voulant montrer au peuple lacédémonien que les hommes sont tels que l'éducation les fait, il mit les deux chiens en plein marché, et entre eux une soupe et un lièvre, l'un courut au plat et l'autre au lièvre, et pourtant, dit-il, ils sont frères. Donc celui-là, avec ses lois et sa constitution, éduqua et forma si bien les lacédémoniens que chacun d'eux eût préféré mourir 1000 morts que de se reconnaître d'autres seigneurs que la loi et la raison.
Ceasefire.
Ireland.
Freedom.
Freedom. Let's talk about freedom. Freedom! Let's talk about freedom. Freedom to choose, baby. Freedom to lose. Freedom to love who you want, baby. Freedom to love God above. God above, baby, come on! Talk about freedom, talk about freedom. Talk about freedom, talk about freedom. Talk about freedom, talk about freedom. Freedom, yeah! About peace, freedom to scream about peace, freedom in the European East, baby, not just the European East. I want some freedom to smoke some herb,
smoke some herb.
I want some freedom to do what I want,
do what I want, baby.
Freedom to cry,
freedom to cry,
freedom to lie,
freedom to lie,
freedom to love, baby,
love, baby, love, baby.
Freedom of love,
God above, God above,
God above, baby, come on.
Songs about freedom, yeah.
This song's about freedom,
yeah.
This song's about freedom,
yeah.